Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Paris. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette première chronique de la librairie des étudiants sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Ce nouveau rendez-vous que nous commençons ensemble cette saison met un coup de projecteur sur la littérature. Pour certains, lire est une passion dévorante, de jour comme de nuit. Pour d'autres, c'est un calvaire, ou alors ils ne se sentent pas assez concernés. Avec la librairie des étudiants, je souhaite dépoussiérer tous ces livres qui sont déjà des classiques et jeter aussi un coup d'œil aux nouveautés. Nous allons faire le tour du monde entre romans, essais, poésie, bande dessinée et autres genres littéraire. Je souhaite vous donner des clés de lecture qui, je l'espère, vous donneront envie de passer la porte des librairies indépendantes et de lire ces livres que j'ai à vous présenter. En cette rentrée littéraire d'automne, d'août à fin septembre, quelques 484 romans sont publiés. J'ai donc choisi de vous en présenter l'un d'entre eux. Comment deux hommes, chahutés par l'histoire, éclairent-ils toute une génération ? Nous ouvrons aujourd'hui le nouveau roman de l'autrice anglaise Kerris Davis, un roman nommé Éclaircie, publié aux éditions La Table Ronde, un roman qui est par ailleurs traduit de l'anglais par David Fockenberg. Notre roman du jour est aussi déjà nommé dans la première sélection du prix Femina étranger 2025. Amis auditeurs et auditrices, sortez vos marque-pages du bout du monde, nous ouvrons aujourd'hui un roman de Kerris Davis. Nous sommes au nord de l'Écosse, quelque part après les îles Shetland. Un navire est sur le point de débarquer, un homme, sur une île qui semble être une terre du bout du monde. Homme d'église, John Ferguson vient ici en mission, le temps de quelques jours tout au plus. Sur ce rocher, un homme vit en solitaire, loin de tout. Dans les prochains jours, John devra le retrouver et le faire revenir sur le continent car l'île où il réside va être prochainement transformée. Les propriétaires veulent le déloger et mettre à la place des troupeaux de moutons, plus rentables qu'une âme solitaire qui ne crée aucune richesse. La riche famille des Lowry pense que, en missionnant un homme de foi, le dernier habitant de ce caillou perdu au milieu de l'eau acceptera bien volontiers de prendre le bateau et repartir sans faire d'histoire. L'homme d'église devra donc fouiller la petite île à la recherche de cet homme qui n'a pas rencontré un de ses semblables depuis de très nombreuses années. Une fois sur l'île, John s'installe à la maison du bailli comme un point d'étape nécessaire. Trempé jusqu'aux os, la faim le guettant, John finit par trouver un endroit où étendre ses vêtements sous le regard encore léger du soleil. Avec l'herbe fraîche et la rosée, John fait un faux pas, glisse et chute d'une falaise bordant l'île. Quelques heures plus tard, Ivar, le dernier habitant de l'île, retrouve John. Il charge l'homme d'église sur le dos de sa mule et le ramène chez lui, dans l'espoir que cet homme ne soit pas mort de sa chute. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. I got you. I got you. One in, Lose It All par Naughty Boy et Beyoncé, un single sorti en septembre 2015 dans les bacs.
La librairie des étudiants, Radio Campus Paris 93.9.
Pour cette première chronique de la librairie des étudiants sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9, nous ouvrons le nouveau roman de Kerys Davis, Éclaircie, publié en cette rentrée littéraire d'automne aux éditions La Table Ronde. Un roman traduit de l'anglais par David Faulkenberg. Un roman qui se construit en réponse, un chapitre étant dédié à John et le suivant à Ivar. Sachant que la narration reprendra ce même procédé une fois que les deux hommes se seront rencontrés, laissant alors la réponse des chapitres suivants au personnage de Marie. L'écriture de ce roman est d'une grande efficacité, simple, allant droit aux choses, plantant le décor avec précision et concision. Cette même concision qui fait que nous, lecteurs, nous sommes retenus et embarqués par l'histoire. Notre imaginaire est convoqué de facto pour combler les vides des lignes volontairement laissées par l'autrice. Dans ce roman, tout comme John, nous sommes dans l'attente de découvrir, de rencontrer cet homme solitaire qu'est Ivar. Un homme seul, mais pour autant entouré par ses bêtes, dont Peggy, une vache aveugle qui fait aussi office de mule. Il travaille à entretenir l'île et sa petite maison. Même avec de maigres outils, il reprend tout ce qui l'entoure pour vivre. Au bord de la crique, ayant renoncé à son petit déjeuner, Ivar travaillait sans relâche, courbé en deux, à arracher de pleines brassées de l'herbe luxuriante qui poussait entre les rochers. Il progressait lentement parmi eux, ramassant l'herbe au passage, et c'est à cet endroit qu'il s'arrêta et se redressa pour scruter l'eau. Des taches sombres, flottantes, étaient souvent apparues dans son champ de vision pendant sa maladie. Des caillots noirs qui surgissaient devant ses yeux au moindre mouvement, si bien qu'il s'immobilisa un bref instant. Il existait un mot dans sa langue pour décrire le va-et-vient de la mer couvrant et découvrant un rocher immergé. Ce mot aurait parfaitement décrit la manière qu'avait l'objet sombre et boursouflé de s'enfoncer sous les petites vagues pour mieux réapparaître. Il cligna des yeux, et constatant que la forme était toujours là, lâcha sa brassée d'herbe et s'avança en pataugeant dans les hauts fonds. Mais le vent s'était levé à présent, soufflant en rafales de plus en plus violentes, et chaque fois qu'Ivar tendait le bras vers la masse boursouflée, celle-ci reculait hors de sa portée. Peggy, là-bas sur l'estran, se tenait tête basse, le vent jetant du sable sur ses flancs et dans ses yeux. Ivar se pencha de nouveau et, cette fois, parvint à attraper l'objet flottant et le tira à lui. Il resta un long moment, planté sur la plage à scruter la mer qui repartait. Une brume et un fin crachin approchaient, poussés par le vent. Des filets d'eau douce s'écoulaient du pied des falaises dans son dos. Il vit des maquereaux, des phoques et des cormorans, rien d'autre. Il resta campé, là, plus d'une heure, mais il n'y avait rien ni personne. Nul grand navire, ni la moindre petite embarcation. Alors, finalement, il passa sur son épaule la bandoulière de la sacoche, tassa l'herbe dans les paniers de Peggy, tourna le dos à la plage et rentra chez lui. Éclaircie, Kerys Davis, page 22-23. Dans la forme très simple de sa vie, Ivar va tout de même veiller au chevet de John. Le pasteur ayant fait une mauvaise chute qui aurait pu lui coûter la vie, Ivar veille et le soigne comme il le peut. Le cadre de ce roman est dépaysant, tout en formant un huis clos exceptionnel. Dans leur grande solitude commune, les deux hommes font face à une nature sauvage, des plaines fraîches de rosée. On devine aussi, à travers ces pages, derrière l'embrun marin du large, l'humidité du sol, l'odeur du sol même, et de la tourbe. Le tout survolé par un grand silence, seulement perturbé par le vent. Il y avait des jours où le soleil n'était qu'un point lumineux derrière les nuages. Il y avait des jours où la brume tombait comme une cape sur les épaules de l'île, où la pluie s'abattait en grosses et lourdes gouttes, faisant fondre la terre en une soupe molle et brune, où un léger vent froid soufflait au ras du sol, faisant frissonner les tourbières. Il y avait des jours où le temps était si déchaîné qu'une écume de mer dense dérivait jusqu'au champ. Il y avait des jours où le temps était si déchaîné qu'une écume de mer dense dérivait jusqu'au champ d'Ivar et les endommageait, et où les conditions étaient si rudes qu'Ivar ne pouvait travailler. De l'intérieur de la maison, ils entendaient le martèlement sourd des vagues, et quand John Ferguson sortait avec Ivar jeter un coup d'œil à la mer du haut des falaises, ils voyaient l'eau bleu-vert bouillonner furieusement autour des récifs et les embruns s'envoler dans le ciel chaque fois que le vent s'emparait de la crête des déferlantes. Mais les jours où le temps était au beau fixe, où l'air était presque immobile et qu'une vapeur blanchâtre s'élevait du sol, ou lorsqu'il était juste un peu venteux et qu'Ivar pouvait se remettre au travail, John Ferguson aimait l'accompagner partout où il allait, le suivant du mieux qu'il pouvait avec sa mauvaise jambe. Dans la brise, ses papiers voltaient et ses cheveux ondulaient en tous sens comme de l'herbe, et de temps à autre, il levait sa main libre pour tenter de les replaquer en arrière sur le haut de son crâne, par-dessus la petite calvitie, à l'endroit où Ivar les avait coupés autour de sa plaie. Parfois, il s'arrêtait et se pliait en deux, pressant sa main sur un point de côté, engloutissant l'air et agitant le bras à l'intention d'Ivar en criant « Hip !» Le mot qu'il avait entendu, Ivar utilisait pour appeler Peggy. Le seul qui lui venait à l'esprit pour lui demander de bien vouloir s'arrêter, juste un court instant, le temps qu'il reprenne son souffle. Alors, Ivar attendait que John Ferguson fût prêt à se remettre à marcher, à pointer les choses du doigt et à l'assaillir de questions et à prendre des notes au crayon sur ses papiers. Éclairci, Kerris Davis, page 108-109. Le roman de Kerris Davis met aussi en lumière une partie de l'histoire d'Écosse que je ne connaissais peu. L'histoire de l'église libre d'Écosse. Devenu jeune pasteur pour cette église, nous sommes au tournant du 19e siècle. Une branche de l'église presbytérienne de l'Écosse fait un schisme avec l'église écossaise, voulant offrir alors un autre mouvement de croyance plus proche des fidèles. De ce fait, quelques chapitres évoquent les actions de John pour réunir des fonds afin de consolider cette nouvelle église libre d'Écosse. Pour faire vivre ses nouveaux projets, John est prêt à tout pour accepter, y compris être payé pour déloger un vieil homme sur une île au nord de Shetland. Le roman évoque par la même occasion cette loi du plus fort qui a sévi durant cette période de l'histoire où de riches propriétaires délogeaient les locataires même sur des îles lointaines. Pour leur rentabilité personnelle, il valait mieux louer des fermiers, éleveurs de troupeaux de moutons qu'à des petites travailleurs sans le sou. Or, comment faire pour déloger un homme qui vit en ermite depuis des années et qui ne souhaite en aucun cas rejoindre le continent ? La barrière de la langue fait aussi beaucoup, et John ne peut pas s'abriter derrière une mission de diffusion des Saintes Écritures, car les textes saints qu'il a apportés et l'ordre d'expulsion ont pris l'eau. Il ne reste alors que quelques feuilles rêches à l'encre délavée. De cette manière, loin du monde, Ivar et John sont sans homme ni dieu, sans société ni dogme, des humains avant tout. Au fil des courts chapitres de ce roman, Kerris Davis nous montre comment les deux hommes vont apprendre à se connaître. Bien que Ivar ait sauvé le jeune pasteur, il n'en reste pas moins la barrière de la langue et des habitudes. L'un va apprendre de l'autre en apprenant les sonorités, et l'autre grande force de ce texte est aussi de nous proposer un petit dictionnaire avec tous les mots employés en italique dans le texte de la langue d'Ivar. Les deux hommes vont donc apprendre à se connaître aussi par le regard et les gestes. Avec les années, Ivar est un homme précis et méticuleux malgré le côté rudimentaire de ses matériels. Pour autant, ce même regard presque d'ethnographe que pose John sur l'insulaire va le troubler. Il doit se repenser alors en tant qu'homme, avec une apparence peut-être un peu hirsute. De ce fait, les deux hommes devant vivre sur cette île vont nouer un lien très fort. Mais ce même lien ne risque-t-il pas de se briser devant les nombreux mensonges qui entourent la présence de John sur l'île ? Dans ce roman, il est aussi question du personnage secondaire de Marie. La promise de John attend le retour de son homme. Mais la véritable question est, a-t-elle seulement envie de l'attendre désespérément depuis ce quai du port ? Bien que discret dans les lignes de ce roman, le personnage de Marie reste un point de clivage entre Ivar et John. Depuis qu'il a découvert le pasteur sur le rivage, le portrait de la jeune femme est jalousement gardé. Qui plus est, Ivar comprend que cette jeune femme est toute la vie de John, alors il ne vaudrait mieux pas lui montrer le portrait, il risquerait de s'éloigner. Les deux hommes peuvent à tout moment s'affronter pour un portrait, pour une femme. Il en ressort incontestablement de la jalousie. De la jalousie, mais aussi une source de réconfort et de bonheur pour les deux hommes, car Marie est un océan de souvenirs proches pour John et pour Ivar, la mémoire d'une vie de famille aujourd'hui révolue. D'autant que pour filer la métaphore et le thème de la religion, nous pourrions nous demander si le personnage de Marie n'est pas pétri de vertu. Elle semble être un idéal que cherche à atteindre John et qu'il retrouve donc dans Marie. De cette métaphore, nous pourrions donc voir la place de Marie, la mère de Jésus, ce qui répondrait aussi au thème largement développé de la religion et de l'Église d'Écosse. Le parallèle est bien sûr remis à la liberté d'interprétation du lecteur. Au large de l'Écosse, nous faisons la rencontre de deux hommes renouant avec leur nature humaine, loin du dictat et du monde, comme une éclaircie dans leur vie qui traversait jusque-là l'orage. Ainsi va la littérature et se termine cette première chronique de la librairie des étudiants sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Le premier roman que nous avons ouvert s'intitule Éclaircie. Il est signé par l'autrice anglaise Kerris Davis aux éditions La Table Ronde. Le roman d'une rencontre au bout du monde qui parle aussi de nos conditions d'hommes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique littéraire. D'ici là, vous pouvez retrouver cette première chronique en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Paris 93.9 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite d'avoir de belles lectures.